Anton Tchekhov, la salle numéro 6. Dans la cour de l'hôpital, une véritable forêt de glouterons, d'orties et de chanvres sauvages entoure un pavillon solitaire. La toiture en est mangée de rouille, la cheminée en ruine. L'herbe a disjoint les marches du perron et le plâtre s'écaille au mur de cette bicoque. La façade s'oriente vers le bâtiment principal. Le derrière donne sur les champs, dont le sépare une clôture grise hérissée de gros clous. Cette clôture, ces clous fichés le poing en l'air, et tout le pavillon offre l'aspect maudit particulier à nos hôpitaux et à nos prisons. Si vous ne craignez pas de vous piquer aux orties, suivez-moi par le sentier qui mène à ce pavillon, et voyons un peu ce qui se passe à l'intérieur. La première porte franchie, nous pénétrons dans une espèce de vestibule. Des chiffons, des vêtements hors d'usage s'entassent près du poêle et contre les murs. Matelas crevés, blouse d'uniforme en loques, pantalons déchirés, chemises effilochées, savates éculées, toute cette friperie s'accumule pêle-mêle, pourrie, exhale une odeur méphitique. Sur ces débris sans nom et sans forme, on peut voir à toute heure, étendu son brûle-gueule au coin de la bouche, le gardien Nikita, un vieux soldat en uniforme dont les cheveux sont roussis par le temps. Petit, maigre, musculeux, avec des poings solides, une figure décharnée et rébarbative, un nez rouge, des sourcils touffus qui le font ressembler à un chien de berger, il a l'air imposant. Il est de ces hommes simples jusqu'à la stupidité, de ces hommes brutaux par excellence, qui aiment l'ordre par-dessus tout et pensent qu'il faut absolument les battre. Aussi les frappe-t-il au visage, dans la poitrine, dans le dos, n'importe où, persuadé que, faute de coups, l'ordre ne régnerait pas dans l'établissement. Ensuite, nous entrons dans une grande pièce qui occupe avec le vestibule toute la largeur du pavillon. Les murs de cette salle sont d'un bleu déteint, le plafond est enfumé comme dans une isba. On devine aussitôt que les poêles fonctionnent mal et que pendant l'hiver, les vapeurs du charbon se dégagent librement. Des grilles intérieures en fer attristent les fenêtres. Le plancher est gris et raboteux. Un relent âcre de choux, de fumée, de punaise, d'ammoniac vous prend à la gorge, vous donne l'impression d'une ménagerie. Dans cette pièce, des lits s'alignent, tous fixés au plancher. Là sont assis ou couchés des hommes en blouse bleue et en bonnet. Ces hommes sont des aliénés. Il y en a 5. Un seul est de la noblesse, les autres sont de petits bourgeois. Le plus proche de la porte, un malade long et sec, les moustaches rousses, les yeux rougis, à force on le voit d'avoir pleuré, accoudé, la tête appuyée contre la main, regarde fixement quelque part. Sur le registre de l'hôpital, sa maladie est diagnostiquée hypochondrie. Mais c'est bien plutôt une paralysie progressive. Nuit et jour, il soupire et secoue la tête avec un air mélancolique et un sourire amer. Il se mêle rarement à la conversation et presque jamais il ne répond aux demandes qu'on lui adresse. Il mange et boit d'un geste machinal quand on le serre. Une toux sèche, fréquente, sa maigreur, l'incarnat suspect de ses pommettes, indique la phtisie à son début. Son voisin est un petit vieillard, très vif, toujours en mouvement, les cheveux noirs et crépus comme ceux d'un nègre, la barbiche, noire aussi, terminée en pointe. Le jour, il se promène dans la salle, d'une fenêtre à l'autre, ou bien il reste au lit, croisant ses jambes à la turque, à siffler comme un bouvreuil et à fredonner des airs coupés de petits rires. Cette même vivacité, cette joie enfantine, Il les manifeste la nuit lorsqu'il se lève pour faire sa prière, c'est-à-dire pour se frapper la poitrine de ses deux mains et gratter la porte avec ses doigts. C'est Moïse, un petit juif, un idiot, qui a perdu la raison il y a une vingtaine d'années lorsqu'un incendie consuma sa modeste fabrique de casquettes. Parmi tous les habitants de la salle numéro 6, lui seul peut sortir du pavillon et même de l'hôpital et se promener dans les rues. Depuis longtemps, il jouit de ce privilège, sans doute comme doyen des pensionnaires, et parce qu'il est un pauvre insensé, doux et inoffensif, le fou de la ville, pour ainsi dire, que tout le monde s'est habitué à voir dans les rues, suivi d'enfants et de chiens. En blouse et en bonnet d'uniforme, chaussé de pantoufles, parfois même nu-pied et sans pantalon, il va, s'arrêtant devant les portes cochères et les boutiques, et mendiant un copec. On lui donne, ici, un verre de bière, là, un morceau de pain. Ailleurs, il reçoit quelques menus monnaies, si bien qu'il rentre à la fin riche et rassasié. Tout ce qu'il ramasse, Nikita se la juge d'un air bourru, en retournant les poches du fou et en jurant, au nom de Dieu lui-même, que jamais il ne permettra plus aux Juifs de sortir. Et il ajoute que ses tolérances l'exaspèrent. Moïse fait preuve d'une prévenance extrême. Il va chercher de l'eau pour ses camarades, il les couvre lorsqu'ils dorment. Il promet un copec à l'un, une casquette à l'autre quand il ira en ville. C'est encore lui qui fait manger son voisin de gauche, paralytique, en lui portant la cuillère à la bouche. Ce n'est point la pitié qu'il inspire, ni aucun sentiment d'humanité, mais le simple désir d'imiter son voisin de droite, Gronov. Ivan Dimitrich Gronov, un homme de 33 ans, de famille noble, appartenant à la 12e classe, ancien huissier à la manie de la persécution. Il demeure pelotonné sur son lit, ou bien il arpente la salle de long en large, comme pour faire l'exercice, mais il est rare qu'on le trouve assis. Toujours irrité, agité, il vit dans l'attente perpétuelle d'il ne sait quel événement. Un bruit dans le vestibule, un cri dans la cour lui fait lever la tête. Il écoute si on n'est point venu pour lui, si ce n'est pas lui qu'on demande. À ces moments-là, sa physionomie exprime une inquiétude extrême et le dégoût le plus profond. J'aime cette large face aux pommettes saillantes, toujours pâle et douloureuse, où se reflète, comme dans un miroir, une âme exténuée par la lutte et la peur croissante. Il fait des grimaces bizarres et pénibles, mais ses traits fins, où des souffrances profondes gravèrent leur empreinte, dénotent une intelligence réelle, et ses yeux brillent d'une lumière pure et chaude. Il me plaît, ce malheureux, toujours aimable et serviable pour tout le monde, à l'exception de Nikita. Si quelqu'un laisse tomber un bouton, une cuillère, vite il saute en bas de son lit afin de ramasser l'objet. Tous les matins, il souhaite le bonjour à ses compagnons, et tous les soirs, en se couchant, il les salue d'un cordial « Bonne nuit !» Outre les grimaces provoquées par la tension perpétuelle de son esprit, d'autres symptômes encore attestent sa folie. Parfois, le soir, il s'enveloppe dans sa blouse et, tremblant de tout son corps, il se met à marcher d'un coin à l'autre vivement. À la manière dont il s'arrête soudain et regarde ses camarades, on voit qu'il voudrait leur dire quelque chose de très important. Mais sans doute il craint de n'être point compris, ni même écouté, car il secoue la tête avec impatience et continue sa promenade. Bientôt, cependant, son envie de parler devient la plus forte. Il y cède et s'exprime en un langage ardent et passionné. Son discours est incohérent, fiévreux comme dans le délire, saccadé et souvent inintelligible. En revanche, il trouve des paroles et des intonations qui vous pénètrent le cœur. En lui, quand il vous parle, vous distinguez un fou et un homme. Et il serait malaisé de formuler par écrit ses propres propos extravagants. Il pérore sur la lâcheté humaine, sur la violence et l'injustice qui foulent aux pieds la vérité, sur une autre vie plus belle qui régnera un jour ici-bas, sur les grilles des fenêtres qui lui rappellent constamment la cruauté, la bêtise des oppresseurs, bref, une espèce de peau pourrie, sans queue ni tête, un fouillis de vieilles chansons, dont le dernier mot est encore loin d'être dit. Il y a 12 ou 15 ans vivait dans la ville un certain Gromov, fonctionnaire, homme sérieux et à son aise. Il habitait une maison à lui, située dans la plus belle rue. Il avait 2 fils, Serge et Ivan. Serge, étudiant de 4e année, devint poitrinaire et mourut de la phtisie galopante. Cette mort fut comme le premier anneau d'une chaîne de malheurs qui accablèrent coup sur coup la famille Gromov. Une semaine après l'enterrement de Serge, le père fut poursuivi en justice pour faux et détournement de fonds publics, et bientôt il mourut d'une fièvre typhoïde à l'infirmerie de la prison. La maison et tout le mobilier furent vendus à l'encan. Ivan et sa mère demeurèrent absolument sans ressources. Avant la mort de son père, Ivan Gromov, qui faisait alors ses études à Saint-Pétersbourg, recevait de 60 à 70 roubles par mois et ne manquait de rien. Après, il dut changer complètement sa manière de vivre. Il fut tout à coup forcé de courir le cachet et du matin au soir de faire des copies. Encore n'arrivait-il qu'à végéter misérablement, car il envoyait à sa mère la plus grande part de son gain. Ivan n'était pas en mesure de mener longtemps une pareille existence. Il perdit le courage et la santé, quitta l'université et retourna dans sa ville natale. Là, il réussit, grâce à l'entremise de quelques amis, à trouver un emploi d'instituteur. Mais n'ayant pas su faire bon ménage avec ses collègues, ni gagner l'affection de ses élèves, il dut bientôt renoncer à cet emploi. Sa mère mourut. Pendant 6 mois, Ivan chercha vainement quelque ouvrage et se nourrit de pain et d'eau. Puis il entra chez un huissier qui ne tarda pas à le congédier pour cause de maladie. Jamais Ivan, même dans sa jeunesse, n'avait joui d'une constitution robuste. Pâle et maigre, il s'enrhumait souvent, mangeait sans appétit et dormait assez mal. Un petit verre lui donnait des vertiges et parfois même une attaque de nerfs. Il aimait la société, mais d'un caractère ombrageux et irritable, il ne se liait pas et n'avait point d'amis intimes. Il méprisait fort ses concitoyens, disant que leur ignorance et leur vie purement animale et engourdie lui semblaient abominables. Sa voix de ténor sonnait haut. Il ne parlait jamais autrement que sur le ton de l'indignation ou de l'enthousiasme, mais toutes ses paroles respiraient la sincérité. Quelque sujet que l'on abordât, il en revenait toujours à la même antenne. On séchait d'ennui, on étouffait dans cette ville perdue. La société, close à toute pensée un peu haute, menait une existence bête et morne dont elle cherchait à rompre la suite monotone par des vilainies, des violences ou des hypocrisies. Les coquins prospéraient, bien nourris et bien vêtus. Les honnêtes gens n'avaient que les restes. Il faudrait une bonne école, un journal sincère, un théâtre, avec des conférences publiques, toutes les forces intellectuelles réunies en faisceau, afin que la société se vit dans la lardeur mesquine et qu'elle eût peur d'elle-même. Et ses jugements sur les hommes, Ivan les peignait en 2 couleurs, noir ou blanc, jamais d'autres nuances. Il divisait l'humanité en 2 groupes, les coquins et les honnêtes gens, pas de milieu. Il parlait de l'amour et des femmes avec une passion qui atteignait parfois à l'extase, bien qu'il n'eût jamais été amoureux de sa vie. Et malgré l'âpreté incisive de ses raisonnements, on l'aimait dans la ville, et quand il n'était pas là, si l'on parlait de lui, on l'appelait par son nom d'enfant, Vania. La délicatesse de ses manières, sa complaisance envers chacun, sa distinction native, sa propreté morale ainsi que son air maladif, sa redingote usée, les malheurs qui avaient éprouvé sa famille, lui conseillait la sympathie générale, une sympathie chaleureuse et apitoyée. De plus, il avait une instruction remarquable, il avait beaucoup lu, et les habitants de la ville considéraient Ivan comme un dictionnaire bon à consulter en toutes circonstances. Il lisait en effet beaucoup. On le voyait au cercle passer des heures entières à feuilleter livres et revues en tiraillant sa barbiche. On devinait à sa physionomie qu'il dévorait plutôt qu'il ne lisait. Il faut croire que la lecture était chez lui comme un besoin maladif, car il parcourait avec la même avidité tout ce qui lui tombait sous la main, fût-ce un journal de l'année précédente ou quelque vieux calendrier. À la maison, il lisait toujours dans une attitude horizontale. Un matin de novembre, Ivan Dimitrich Glomov, le col de son pardessus relevé, se dirigeait par tout un réseau de ruelles et d'impasses boueuses vers la maison de quelques pauvres R, afin d'y toucher une certaine somme sur un acte exécutoire. Il était ce jour-là d'une humeur très sombre, comme presque tous les matins. Dans une ruelle étroite, il croisa deux prisonniers en menottes, conduits par quatre soldats aux fusils chargés. Il arrivait souvent à Gromov de voir ainsi des prisonniers. Ce spectacle éveillait toujours en lui un sentiment de pitié autant que de malaise. Mais cette fois, la vue des hommes que l'on emmenait l'affecta plus vivement que d'habitude. Il songea soudain, sans qu'il eût pour quelle raison, que l'on pouvait le mettre au fer, lui aussi, et le conduire par cette boue à la prison. Comme il sortait de chez le débiteur et revenait chez lui, Gromov rencontra, devant le bureau de poste, un agent de sa connaissance qui le salua et fit quelques pas à son côté. Cela lui sembla un peu suspect. Toute la journée, l'image de prisonniers marchant dans la boue et des soldats aux fusils chargés tourmenta son esprit. Un trouble étrange l'empêchait de lire et de concentrer sa pensée. Le soir venu, il n'alluma pas sa lampe et la nuit, il ne put dormir. Tout le temps, il se disait qu'on pouvait d'un moment à l'autre venir l'arrêter, lui mettre les menottes et le jeter en prison. Il savait parfaitement qu'il n'avait à se reprocher aucun acte répréhensible et que jamais dans l'avenir il ne tuerait personne, il ne deviendrait voleur ou incendiaire. Mais quoi ? Est-on jamais sûr de n'avoir point commis quelque méfait sans le savoir ? Et d'ailleurs, qui peut se croire absolument à l'abri d'une dénonciation calomnieuse, d'une erreur judiciaire ? La sagesse des nations ne dit-elle pas que nul homme n'est assuré d'éviter la besace et la prison. Et quant aux erreurs judiciaires, quoi de plus fréquent avec les procédés habituels de nos tribunaux? Les hommes dont le devoir, dont l'emploi consiste à sonder les douleurs d'autrui, comme les médecins, les gens de police, les juges, finissent tous à la longue par s'accoutumer, par s'endurcir à tel point qu'ils ne peuvent plus, même s'ils le voulaient, traiter leurs clients autrement qu'avec toutes les rigueurs du formalisme. En cela, pareils aux paysans, qui en égorgeant dans leur basse-cour des moutons et des veaux, ne remarquent même plus le sang qui gicle. Avec cette façon purement routinière d'en user envers les personnes, il ne faut pas grand-chose pour dépouiller un pauvre innocent de ses droits et pour le condamner aux travaux forcés. Le temps d'observer quelques formalités pour lesquelles on paie les magistrats, et le tour est joué. Allez donc, après cela, réclamer justice et protection dans cette affreuse petite ville à 200 verstes au moins de la plus prochaine gare. Mais n'est-ce pas ridicule de parler justice lorsque toute violence est accueillie par la société comme une chose indispensable, et que par contre un acte de charité comme une sentence favorable à l'accusé, provoque une véritable explosion de rage inassouvie. Le lendemain, Gromov se leva épouvanté, le front mouillé d'une sueur froide. Il était convaincu déjà qu'on allait bientôt l'arrêter. « Si mes idées noires d'hier ne me quittent plus, songeait-il, c'est qu'elles doivent se trouver juste en partie, qu'il est impossible qu'elles me soient venues dans la tête sans aucun motif. » Un agent de police se passe lentement sous les fenêtres, ce n'est sûrement pas l'effet du hasard. Voici deux hommes qui s'arrêtent brusquement devant la maison et qui restent là, muets. Mais pourquoi se taisent-ils ? Et des journées, des nuits pénibles commencèrent pour Glomov. Il ne découvrait partout qu'agents et mouchards. Dans sa rue, à midi, le commissaire de police passait en voiture. C'est à cette heure-là qu'il revenait tous les jours de sa propriété pour se rendre au bureau. Mais Ivan, lui, trouvait depuis quelque temps que le commissaire allait trop vite. Il n'avait pas sa physionomie habituelle. Évidemment, il se pressait pour annoncer qu'un scélérat de marque était signalé dans la ville. Gromov tressaillait au moindre coup de sonnette, au plus léger grincement de la porte cochère. Chaque personne qu'il voyait pénétrer chez la propriétaire le faisait souffrir. Quand il rencontrait soit un sergent de ville, soit un gendarme, vite il sifflait et souriait pour se donner un air indifférent. Il passait des nuits blanches dans la crainte perpétuelle d'une imminente arrestation. Mais tout le temps, il ronflait, il expirait, comme dans le sommeil, pour faire croire à sa propriétaire qu'il dormait. Car s'il ne dormait pas, c'était le remords qui l'empêchait. Quelle charge terrible, pensez donc ! Des milliers de faits, le simple bon sens, il disait bien que toute cette peur était le produit de son imagination, détraquée. En somme, à considérer les choses avec un peu plus de largeur, ce n'est point si terrible d'être mis en état d'arrestation et emprisonné, pourvu qu'on ait la conscience tranquille. Mais plus ses raisonnements étaient logiques, plus s'augmentait son inquiétude et le trouble de son âme. Il se comparait à cet ermite qui, voulant se créer un abri dans une forêt vierge, se mit à couper les arbres. Et plus il remaniait sa cognée, plus la forêt s'épaississait devant ses yeux. À la fin, Glomov, sentant ses efforts inutiles, cessa de raisonner. Il se laissa complètement abattre par l'angoisse et le désespoir. Dès lors, il commença de s'isoler, de fuir les hommes. Son métier lui avait toujours inspiré un dégoût profond. Il en vint à le trouver absolument insupportable. Il craignait qu'on ne lui tendît quelques pièges, qu'on ne lui glissât de l'argent dans la poche pour le convaincre ensuite plus facilement de vol. Il tremblait à la pensée de commettre, dans l'un des nombreux dossiers à lui confiés, une erreur involontaire qui serait considérée comme une fraude, ou encore de perdre une somme qui ne lui appartenait pas. Chose étrange, son esprit n'avait jamais été aussi vif et délié que maintenant. Chaque jour, il imaginait 1000 sujets de craindre pour son honneur et sa liberté. Par contre, l'intérêt qu'il prenait au monde extérieur en général, et aux livres en particulier, s'affaiblissait de plus en plus, et sa mémoire commençait à le trahir. Au printemps, lorsque la neige fondit, l'on trouva dans un ravin, tout près du cimetière, les cadavres à demi décomposés d'une vieille femme et d'un enfant. Tous les deux portaient les marques d'une mort violente. Il n'était question par toute la ville que de ces deux cadavres des meurtriers inconnus. De peur qu'on ne le prît pour l'assassin, Ivan se promenait dans les rues en souriant, et lorsqu'il rencontrait quelqu'un de sa connaissance, il pâlissait, rougissait tour à tour, et s'évertait à prouver que rien n'est lâche comme de tuer des êtres faibles et misérables. Mais ce continuel effort le fatiguait bientôt. Après avoir mûrement réfléchi, Gromov décida que la meilleure chose à faire était pour lui de se cacher dans sa cave. Il y passa la journée, puis la nuit, et puis une journée encore, bien qu'il fût transi de froid, et il attendit le retour de l'obscurité pour se glisser en cachette dans sa chambre comme un voleur. Jusqu'à l'aube, il demeura debout au milieu de la pièce, l'oreille aux écoutes, sans bouger de sa place. De grand matin, avant que le soleil ne se levât, des ramoneurs vinrent à la maison. Glomov savait très bien qu'il venait nettoyer le fourneau de la cuisine, mais sa peur ne lui en soufflait pas moins que c'était là des agents déguisés en ramoneurs. Doucement, il s'esquiva de son logis, et envahi d'une terreur soudaine, il se mit à courir nu-tête et en bras de chemise. Derrière lui, des chiens s'élançaient en aboyant. Un paysan criait, l'air même lui chuchotait quelque chose dans les oreilles, et il semblait à Glomov que la violence et les forces du monde entier s'étaient rassemblées derrière son dos et le poursuivaient. On le rejoignit enfin, on le ramena chez lui, et l'on envoya la propriétaire chercher un médecin. Le docteur Andrei Efimovitch Ragin ordonna des compresses froides sur le front avec des gouttes d'Hoffmann, puis il secoua tristement la tête et s'en fut, après avoir dit à la propriétaire qu'il ne reviendrait point, car il ne faut pas empêcher les gens de perdre la raison. Comme Ivan Dimitritch n'avait pas les moyens de se faire soigner chez lui, on l'expédia bien vite à l'hôpital. Là, on le mit dans la salle des syphilitiques. Et comme il ne dormait pas la nuit et par ses caprices dérangeait les autres malades, le docteur Andrei Efimovitch le fit transporter à la salle numéro 6. Au bout d'un an, les habitants de la ville avaient complètement oublié l'existence d'un Dimitrich Govov et ses livres, que la propriétaire avait relégués dans un vieux traîneau sous le hangar, étaient l'un après l'autre emportés par les gamins des rues. Comme nous l'avons déjà dit, Glomov a pour voisin de gauche le juif Moïse. À sa droite, il a un paysan gras, lard et presque rond, à la figure niaise, idiote plutôt. C'est un animal pesant, goulu et malpropre, qui depuis longtemps a perdu le pouvoir de sentir, de penser. Une odeur forte et suffocante s'exhale constamment de son corps. Nikita, qui est obligé de le nettoyer, le bat cruellement, sans ménager ses poings à toute volée. Mais le plus horrible, ce n'est pas qu'on le frappe, il s'y habitue. C'est que cet animal, absolument abruti, reçoit des coups sans proférer un son, ni bouger, ni même changer l'expression de son regard. À peine oscille-t-il un peu, comme un tonneau plein. Le cinquième et dernier personnage de la salle numéro 6 est un ancien employé de la poste. Un blond, maigre et petit, à la physionomie placide et un peu rusée, aux yeux intelligents et tranquilles, qui vous regarde gaiement et bien en face. Il a toujours l'air malin d'un homme en possession d'un secret important à la fois et très amusant. Il garde, sous l'oreiller ou le matelas de son lit, quelque chose qui ne montre à personne, non par crainte de se le voir enlever, mais par une sorte de pudeur. Il s'approche parfois de la fenêtre et, tournant le dos à ses voisins, il attache à sa poitrine un objet qu'il examine, la tête penchée. Si quelqu'un s'avance vers lui en ce moment, il devient tout confus et vite il arrache l'objet. Mais il n'est pas difficile à deviner le secret du bonhomme. « Félicitez-moi, » dit-il souvent à Glomov, « on vient de me présenter pour la croix de Saint-Stanislas de deuxième classe avec plaque. D'habitude, cette croix est réservée aux étrangers seuls et je ne sais vraiment pas pourquoi cette exception en ma faveur. » déclare-t-il en souriant et haussant les épaules avec une mine étonnée. « À vrai dire, je m'y attendais guère. »« Moi, je n'y entends absolument rien, » dit Glomov tout sombre. « Mais savez-vous à quoi j'arriverai quelque jour ?» continue l'ancien facteur en clignant des yeux avec malice. « Je finirai par obtenir l'étoile polaire de Suède. Voilà, j'espère, un ordre qui vaut la peine d'être sollicité. Une croix blanche avec un ruban noir, c'est très joli. Nulle part ailleurs, sans doute, la vie n'est aussi monotone que dans ce pavillon. Le matin, les malades, à l'exception du paralytique et du gros paysan, vont se débarbouiller à l'antichambre dans un grand baquet. On s'essuie avec un pan de sa blouse. Puis on boit dans un gobelet en étain le thé apporté de l'hôpital par Nikita. Chacun ne reçoit qu'un seul gobelet. À midi, on mange de la soupe aux choux et du gruau, dont le reste formera le repas du soir. Dans l'intervalle, on demeure couché, on dort, on regarde par les fenêtres et l'on se promène de long en large. Et tous les jours, c'est la même chose. On voit bien rarement des nouveaux venus dans la salle numéro 6. Il y a longtemps que le docteur n'admet plus d'autres malades. Et quant aux visiteurs d'hospice, ils ne sont pas nombreux dans ce monde. Une ou deux fois par mois arrive le barbier Semeillon. Il serait oiseux de compter comment il coupe les cheveux aux malades avec l'assistant de Nikita et de peindre le trouble qui saisit les fous à chaque apparition du Figaro, toujours ivre et souriant. Hormis le barbier, personne ne franchit le seuil du pavillon. Les malades sont condamnés à ne jamais voir que Nikita. Une nouvelle assez étrange s'est pourtant répandue il y a peu de jours dans la cour de l'hôpital. On prétend que la salle numéro 6 est, depuis quelque temps, visitée par le docteur. Étrange nouvelle, en effet. Le docteur Andrei Efimovitch Ragin est un homme assez remarquable. On dit qu'en sa première jeunesse, il se distinguait par sa piété, qu'il voulait même entrer dans les ordres. Après avoir terminé ses classes en 1863, il aurait eu le vif désir d'étudier la théologie. Mais alors son père, un chirurgien, l'aurait méchamment raillé, déclarant que si André devenait pope, il ne le regarderait plus comme son fils. Ce qu'il y a de vrai dans ces on-dit, je l'ignore. Toujours est-il qu'Andrei Efimovitch avouait lui-même n'avoir aucune vocation pour la médecine et les sciences qui s'y rattachent. Quoi qu'il en soit, après avoir achevé ses études à la faculté, il n'est pas entré dans les ordres. Il n'a même jamais en aucune façon manifesté son esprit religieux et il ressemble aussi peu que possible à un ecclésiastique. Son extérieur est lourd, grossier, plutôt rustique. Par sa figure, sa barbe, ses cheveux plats et toute sa construction solide et massive, il rappelle un aubergiste de village, fort, brutal et intempérant. L'expression de son visage, sillonné de veines bleues, est sévère. Le docteur a les yeux petits et le nez rouge. Grand, carré des épaules, il étale des pieds et des mains énormes. À le voir, on se dit qu'il n'aurait qu'à lever le poing fermé pour abattre son homme. Cependant, sa démarche est douce et lente. S'il croise quelqu'un dans un passage étroit, c'est toujours lui qui se range le premier en disant, non point avec une voix de basse comme on pourrait s'y attendre, mais avec un grêle fausset de ténor, « Pardon !» Il a une espèce de tumeur au cou, ce qui lui interdit l'usage du faux col. Il ne porte que des chemises non empesées en toile ou en indienne. D'une façon générale, Andrei Efimovitch n'est jamais habillé comme doit l'être un médecin des hôpitaux. On le voit traîner 10 ans le même complet. Ses vêtements neufs qu'il achète dans une boutique juive ont dès le premier jour l'air aussi usés, aussi fripés que les vieux. Toujours, il garde le même costume en recevant ses malades à dîner, en visite, non pas certes par avarice, mais parce qu'il ne s'inquiète nullement de son extérieur. Lorsqu'Andrei Efimovitch y arriva, l'hôpital se trouvait dans un état lamentable. Les salles, les couloirs, la cour, tout puait tellement que l'on avait de la peine à respirer. Les hommes de peine, les infirmières et leurs enfants couchaient dans les salles, côte à côte avec les malades, à qui les punaises, les blattes et les rats ne laissaient pas un moment de répit. Au service de chirurgie, l'hérésie pelle ne cessait de sévir. L'établissement ne possédait que deux scalpels et pas un thermomètre. Dans les baignoires, on conservait les pommes de terre. L'économe, la femme de charge et l'aide-chirurgien dépouillaient systématiquement les malades. Et quant au vieux médecin, le prédécesseur de Raguin, on disait qu'il vendait en cachette l'esprit de vin destiné à l'hôpital et qu'il s'était organisé un véritable harem d'infirmières et de pensionnaires. Personne en ville n'ignorait ces désordres, que l'on exagérait même un peu dans la chaleur de la conversation, mais on les tolérait tranquillement. Même les gens les trouvaient tout naturels, déclarant que les paysans, les bourgeois pauvres entraient seuls à l'hôpital et qu'ils ne pouvaient se montrer mécontents, car jamais ils n'étaient mieux chez eux. On n'allait pas bien sûr leur servir des gélinottes. Les autres disaient, pour justifier ces pratiques fâcheuses, qu'il était réellement impossible à la ville d'entretenir comme il faut un hôpital sans le secours de l'État, et qu'on devait s'estimer déjà fort heureux d'en avoir un qui vaille, qui vaille. Quant aux Zemsvaux, ils ne songeaient guère à créer des hôpitaux, soit dans la ville, soit dans les environs, alléguant précisément que la ville en avait déjà un. Dès sa première visite, Raguin jugea l'établissement très immoral et très funeste à la santé des habitants. Le fermer, après avoir congédié les malades, voilà qu'elle était pour Andrei la meilleure chose à faire. Mais il comprenait que sa volonté à lui ne suffirait point à imposer cette mesure, laquelle eût d'ailleurs été inutile, car les tares morales et physiques ôtées d'un endroit n'aurait pas tardé à se remontrer dans l'autre. Il fallait donc attendre qu'elles eussent disparu d'elles-mêmes. De plus, il était bien évident que s'il s'était trouvé des hommes pour se donner la peine de fonder un hôpital et pour le tolérer tel quel, ces hommes en avaient besoin, et que toutes ces tares abominables étaient nécessaires, car tout cela devait, avec le temps, se transformer en quelque chose d'utile, comme le fumier se change peu à peu en terreau. Il n'y a dans le monde aucun bien dont la source ne soit impure. Donc le nouveau médecin en chef sembla n'éprouver qu'indifférence pour tout ce qui se passait à l'hôpital. Il invita seulement les garçons de service et les infirmiers à coucher ailleurs que dans les salles et fit remplir deux armoires d'instruments. Quant à l'économe, à la femme de chambre et à l'hérésipel, Andrei Efimovitch ne les dérangea point. Raguin apprécie beaucoup le bon sens et l'honnêteté, mais s'agit-il de rendre autour de lui la vie plus honnête et plus sensée, il manque de caractère pour cela, de foi en lui-même. Il n'a pas la conscience de son pouvoir. Il ne sait ni commander, ni empêcher, ni insister sur quoi que ce soit. On dirait qu'il a fait vœu de ne jamais employer l'impératif. Il a de la peine à dire « donnez » ou « apportez-moi ». Quand il a faim, il commence à tout sauter d'un air indécis et demande à sa cuisinière « si je pouvais avoir du thé » ou bien « si l'on pouvait dîner ». Ordonner tout simplement à l'économe de ne plus voler ou supprimer cet emploi inutile et parasite, c'est pour lui une chose vraiment impossible. Chaque fois qu'Andrei Efimovitch se voit dupé, qu'on le flatte ou qu'on lui présente à signer quelques notes manifestement révoltantes, il devient rouge comme un coq et se sent très coupable, mais cela n'empêche pas de signer tout de même. Quand les malades lui parlent de leur mauvaise nourriture et se plaignent de la grossièreté que leur témoignent les infirmières, Raguin se trouble et murmure. « c'est bien, je verrai cela plus tard, il doit y avoir quelques malentendus. » Au début, Andrei Efimovitch travaillait beaucoup. Chaque jour, depuis le matin jusqu'à l'heure du dîner, il recevait des malades, faisait des opérations, s'occupait même d'accouchements. Les dames affirmaient qu'il était fort capable, qu'il diagnostiquait parfaitement toutes les maladies, et en particulier celles des femmes et des enfants. Mais à la longue, cette besogne l'ennuya par sa monotonie et aussi par son évidente inutilité. Quand il avait reçu 30 malades en un jour, il en voyait arriver 35 le lendemain, 40 le surlendemain, et ainsi de suite, de jour en jour, de mois en mois. La mortalité ne diminuait guère dans la ville, et sans cesse les malades affluaient. Cependant, avec la meilleure volonté du monde, il est impossible d'examiner à fond une 40aine de malades avant le dîner. C'est donc une pure comédie. Et si l'on déclare dans le compte-rendu annuel que l'on a examiné 12 000 malades, cela veut dire, à parler franchement, qu'il y a eu 12 000 personnes trompées. On ne peut non plus admettre les sujets les plus souffrants dans les salles de l'hôpital pour les traiter ensuite suivant les règles de la science. Car il y a bien des règles, mais il n'y a point de science. Que si l'on voulait, mettant la philosophie de côté, suivre toutes les règles en pédant, comme font les autres médecins, est-ce qu'il ne faudrait pas avant tout substituer la propreté et le bon air à cette infection, une saine et fortifiante nourriture à cette ignoble soupe aux choux, des aides probes et dévouées à tous ces voleurs? Et d'ailleurs, pourquoi empêcher les gens de mourir, puisque la mort est la fin naturelle et légitime de tous les êtres? À quoi bon prolonger de 5 ou 10 ans la vie d'un commerçant ou d'un fonctionnaire quelconque? Si l'on voit dans la médecine un moyen de soulager les souffrances, une question se pose tout naturellement. À quoi bon les soulager? D'abord, on prétend que la douleur mène l'homme à la perfection. Puis il est sûr que si l'humanité apprend à supprimer toutes les souffrances avec des gouttes et des pilules, elle finira par abandonner complètement la religion et la philosophie, et où jusqu'à présent elle a trouvé un appui, des consolations et parfois même le bonheur. Pouchkine endura un vrai supplice avant de mourir. Le pauvre Henry Heine demeura alors pendant plusieurs années cloué à son lit par la paralysie. Et pourquoi donc ne pas laisser pâtir un peu un André, une Marie quelconque, dont la vie, par trop ordinaire, serait absolument dénuée de sens et ressemblerait à celle d'un simple protozoaire si la souffrance n'existait pas? Découragé par ces raisonnements, Andrei Yefimovitch laissa tomber ses bras et il cessa de visiter l'hôpital chaque jour.
Voici comment se passe la vie de Ragin. Il se lève ordinairement à 8 heures. Il s'habille et prend son thé. Ensuite, il se met à lire dans son cabinet ou bien il se rend à l'hôpital. Une foule de malades attendent là, dans un couloir très étroit, que leur tour soit venu de se faire examiner. Devant eux passent, courant et frappant de leurs bottes le sol carrelé, garçons et filles de service. Des malades maigres et hâves se promènent en blouse d'uniforme. Parfois, on voit emporter un pensionnaire mort ou des vases de nuit. Des enfants pleurent, les courants d'air s'ouvrent sans répit. Le docteur sait bien qu'un pareil entourage affecte péniblement les phtisiques, les fiévreux, les sujets les plus impressionnables, mais qui faire? À son entrée dans la salle, Ragin est accueilli par son aide, Sergueï Sergueïevitch, un petit homme gros, tout rasé, à la figure bouffie et proprette, aux manières gracieuses, dégagées, toujours habillé de neuf et fort à son aise. Il a plutôt l'aspect d'un sénateur que d'un aide-chirurgien. Il a une clientèle nombreuse, porte cravate blanche et se croit beaucoup plus compétent que son chef, lequel n'est presque jamais appelé en ville. Dans un coin de la salle, on voit une grande icône avec une lourde lampe au-dessous, et à côté, un autel recouvert d'une housse. Au mur sont accrochés plusieurs portraits d'évêques, un tableau représentant le couvent de Siratogorsk et des couronnes de bluets séchées. Sergueï Sergueïevitch est très pieux et il adore les ornements à effet. C'est à ses frais que la sainte icône a été mise là. Par son ordre, chaque dimanche, l'un des pensionnaires lit un évangile à haute voix et lui-même, après cette lecture, parcourt toutes les salles, l'encensoir fumant à la main. Les malades sont nombreux et le temps manque. Aussi le docteur se borne-t-il à les interroger brièvement et à ordonner quelques remèdes anodins comme l'huile de ricin ou des frictions volatiles. Ragine est assis, la tête appuyée contre sa paume, l'air pensif. Il pose les questions machinalement. Son aide reste assis de même. Il frotte ses petites mains, de temps à autre il place un mot. Toutes nos maladies et tous nos malheurs nous viennent, dit-il avec l'expression de ce que nous prions, que par le bon Dieu, comme il faudrait. Mais oui, prions pas le bon Dieu comme il faudrait. À sa clinique, Andrei Efimovitch ne pratique plus d'opération. Il y a longtemps qu'il en a perdu l'habitude et que la vue du sang l'agite singulièrement. Lorsqu'il lui faut ouvrir la bouche à un enfant pour voir sa gorge et que l'enfant crie et se débat de ses deux menottes, les oreilles lui tinnent si fort qu'il en a des vertiges et que des larmes lui viennent aux yeux. Il ordonna à la hâte quelques médicaments et vite il fait signe à la bonne femme d'emporter son petit. La consultation finit bientôt par l'excéder. Il ne peut supporter longtemps la gaucherie timide, la sottise des malades, le voisinage de son aide pieux est tiré à quatre épingles, et ses portraits accrochés au mur et l'ennui quotidien de ses propres questions qu'il va posant, toujours les mêmes depuis une vingtaine d'années déjà. Et il se retire après avoir interrogé cinq ou six malades. Les autres sont examinés par son aide après son départ. Tout joyeux à l'idée qu'il ne sera plus dérangé, puisqu'il n'a plus de clientèle depuis bien des années, le docteur appelle à entrer chez lui, s'installe devant la table de son cabinet avec un livre. Ragin lit beaucoup et volontiers. Il dépense la moitié de ses appointements à l'achat de livres. Des six pièces ont été composées son logis, trois sont encombrées de volumes et de revues. Il aime surtout les ouvrages d'histoire et de philosophie. En fait de littérature médicale, Andrei Efimovitch ne lit que le Fratch, le médecin, auquel il est abonné. Toujours il commence par la fin. Ragin lit des heures entières, sans la moindre fatigue, non point vite et avec fièvre, comme faisait Gromov jadis, mais très lentement, avec une extrême attention, en s'arrêtant sur les passages qui l'intéressent le plus ou dont le sens lui échappe. Tout près de son livre, il a toujours une carafe d'eau de vie, ainsi qu'une pomme ou un cornichon, mariné, simplement posé à terre sur le tapis de la table. Chaque demi-heure, le docteur, sans détacher les yeux de son livre, se verse un petit verre, l'avale, puis toujours sans détourner son regard, il trouve à tâtons le cornichon et en arrache un petit morceau avec ses dents. À 3 heures, il se dirige doucement vers la porte de la cuisine et en tout sautant, il dit « Daryushka, si je pouvais dîner... » Après son dîner... Mal apprêté, mal servi, Ragin se promène dans son appartement, les bras croisés sur la poitrine, et médite. 4 heures sonnent, puis 5, et il marche, et il pense toujours. Parfois la porte de la cuisine s'en trouve en grinçant, la figure endormie et rouge de la Daryushka se montre à demi. « Andrei Efimovitch, est-ce qu'il serait pas le temps de boire votre bière ?» interroge-t-elle soucieuse. Non, répond-il, pas encore, j'attendrai encore un peu. Dans la soirée arrive ordinairement le directeur de la poste, le seul homme dont la société ne soit pas importune au docteur. Mikhail Averivanovitch, jadis opulent propriétaire et officier de cavalerie, s'était ruiné. Il dut sur le tort, vieux et appauvri, entrer dans les postes. Il a le teint rose, de beaux favoris blancs, des manières distinguées, une voix sonore et agréable, un cœur sensible et bon, seulement il est très emporté. À la poste, si le public se permet de protester ou même simplement de raisonner, Mikhail Averbianovitch le Rougi de colère et tremblant de tout son corps, il crie d'une voix tonnante « Mais voulez-vous vous taire ?» Si bien que le bureau de poste passe depuis longtemps pour un endroit fort peu commode à fréquenter. Mikhail Arkadievitch aime le docteur et l'estime pour son instruction et sa noblesse d'âme, tandis qu'il traite avec un peu de hauteur les autres habitants qu'il regarde comme des subordonnés. « Me voilà, » dit-il en rentrant chez Ragin. « Bonjour, mon cher ami, je vous ennuie beaucoup, n'est-ce pas ?»« Au contraire, je suis bien content, » lui répond le médecin. « Je suis toujours heureux de vous revoir. » Les deux amis s'asseyent dans le cabinet, sur le canapé, et pendant quelque temps, demeurent tous les deux à fumer, sans rien dire. « Daryushka, » fait Ragin, « si nous pouvions avoir un peu de bière !» Il vide la première bouteille sans rompre le silence. Le docteur boit d'un air pensif. Mihaïla Ivanovitch, lui, avec un joyeux entrain, comme un homme qui a quelque chose d'intéressant à communiquer. Et c'est toujours le docteur qui entame la conversation. « Quel dommage !» commence-t-il doucement et lentement, secouant la tête et sans regarder son interlocuteur en face. Il ne regarde personne en face. « Quel dommage, mon cher Mikhail Ivanovitch, qu'il n'y ait point dans notre ville d'hommes sachant, aimant causer. C'est une grande privation pour nous. Même l'élite ne s'élève guère au-dessus de la banalité. Le niveau de l'intelligence n'y est pas plus haut que dans la classe populaire. Oh, je suis parfaitement juste, je suis de votre avis. Vous savez bien, continue le docteur à voix basse et en s'arrêtant par moments, qu'en ce monde, rien n'importe, sinon les manifestations supérieures de l'esprit humain. L'intelligence, par l'abîme qu'elle creuse entre l'animal et nous-mêmes, nous rappelle notre origine divine et supplée en quelque sorte à l'immortalité qui n'existe point. En partant de ce principe, l'esprit est l'unique source du vrai bonheur. Nous autres, mon cher ami, nous ne voyons, n'entendons rien d'intelligent autour de nous. Donc, nous sommes sevrés du bonheur. Oh, il est vrai que nous avons des livres, mais aucune lecture ne vaut une causerie animée. Si vous me permettez une comparaison, peut-être mal choisie, les livres sont comme les cahiers de musique, mais la conversation, c'est le chant. Parfaitement juste. Un silence. Daryushka sort de sa cuisine et appuyant contre son poing un visage où se lit une expression de morne tristesse, elle s'arrête sur le seuil pour écouter. « Oh !» dit enfin le directeur avec un soupir, « quelle idée singulière d'aller demander quelque esprit à ces petites gens d'aujourd'hui !» Et il commence à parler de la vie saine, joyeuse, intéressante qu'on menait jadis. Il raconte combien la société russe était jadis intelligente, comme elle prisait l'honneur et l'amitié. De son temps à lui, on prêtait sans demander reçu, et l'on eût rougi de ne pas tendre la main à un camarade malheureux. Et quelle campagne, quelles aventures, quelles batailles, quels amis et quelles femmes! Le Caucase était le pays des merveilles. Il y avait une dame, la femme d'un commandant, qui mettait souvent un costume d'officier et s'en allait toute seule dans les montagnes le soir. On dirait qu'elle avait là-haut, dans un aoul, un roman avec des petits princes caucasiens. « Oh, cette vierge !» murmure Daryushka dans un soupir. « Et comme on buvait, et comme on faisait la fête, et quelle ardeur animait nos progressistes !» Andrei Yefimovitch écoute et n'entend pas. Il songe à autre chose et boit sa bière à petites gorgées. Je vois souvent en rêve des hommes supérieurs et je cause avec eux, dit-il soudain en interrompant Mikhail. Mon père m'avait donné une belle éducation, mais sous l'affluence des idées ambiantes, il me força de me faire médecin. Il me semble que si je ne lui avais pas obéi, alors je me trouverais aujourd'hui en plein centre intellectuel. Je serais sans doute membre d'une académie. Certes, l'esprit n'est pas éternel, lui non plus. Il passe comme toute chose. Et vous savez bien pourquoi je me sens particulièrement enclin à l'activité intellectuelle. La vie n'est qu'un piège désolant. Lorsqu'un homme qui pense atteint l'âge viril et peut se rendre à un compte exact des choses, il le trouve infailliblement comme acculé dans une impasse. En effet, il se voit appeler malgré lui du non-être à l'être. Pourquoi? Il veut concevoir la raison et le but de son existence. On ne lui répond que par le silence ou par des absurdités. Il frappe et on ne lui ouvre pas. Et la mort elle-même lui vient également contre sa volonté personnelle. Eh bien, de même que les prisonniers unis par un malheur commun se sentent mieux lorsqu'ils sont ensemble, de même les gens portés vers l'analyse et les idées générales remarquent moins qu'ils sont dans un piège quand ils se réunissent et peuvent passer leur temps à échanger leurs pensées libres et fières. À ce point de vue, l'intelligence est un bonheur incomparable. « Parfaitement juste, opine Mikhail Averyanovitch. » Et toujours sans regarder son interlocuteur en face, tout bas et avec des pauses fréquentes, Ragin continue à parler des hommes intelligents et de leur conversation. Le directeur l'écoute et de loin en loin exprime son assentiment par ces mots « Oh, parfaitement juste !» « Mais vous ne croyez pas à l'immortalité de l'âme ?» demande soudain le directeur. « Non, non, mon cher Mikhail Averyanovitch, réplique le docteur. « Je n'y crois point, n'ai aucune raison d'y croire. »« Ben, à vrai dire, je doute, moi aussi. »« De l'autre côté, cependant, j'éprouve une singulière sensation, comme si j'étais sûr de ne mourir jamais. « Eh, mon vieux, me dis-je souvent à moi-même, il est temps que tu disparaisses, mais... » Chaque fois, une voix dans mon âme se récrie et me répond « Ne crois pas cela, tu ne mourras point. » Après 9 heures, Mikhail Averyanovitch prend congé. En mettant sa pelisse dans l'antichambre, il soupire. « Oh, le sort nous a tout de même, déclare-t-il, jeté dans un joli trou. Un plus triste, c'est qu'il faudra mourir aussi, ah !»